Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La puissance maritime. La presse faisait écho il y a peu de dumping social sur les navires qui assurent la liaison transmanche. Le ministre en charge de la mer, Hervé Berville, a indiqué à cette occasion, je le cite, « Le maritime est un élément de souveraineté qu'il faut protéger ». Qui dit souveraineté renvoie à la puissance. De nombreux auteurs l'ont développé en sciences politiques, mais on pense intuitivement à la puissance publique, au pouvoir public. Qu'en est-il du côté de la mer, finalement? Qu'est-ce qu'une puissance maritime? Une notion qui semble recouvrir de nombreuses facettes en réalité. Pour éclairer cette notion, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Péot. Nicolas Péot, enseignant à l'ISP en culture générale, mais aussi animant un cours sur les grands enjeux maritimes à Sciences Po depuis une dizaine d'années. Nicolas Péot, bonjour.
Bonjour.
Nicolas Péot, pour commencer, j'aimerais souligner un élément d'actualité. On entend beaucoup parler ces derniers mois des outils et des attaques de navires de commerce en mer Rouge. En quoi cet épisode est un enjeu géopolitique et qui peut nous aider à comprendre ce qu'est une puissance maritime selon vous?
On estime que 13% du trafic maritime mondial serait menacé par les attaques des outils au Yémen ainsi que les pirates somaliens dans le golfe d'Aden. Vous noterez d'ailleurs que cette zone géographique a déjà été l'objet de conflits de pirates très anciens. Au XIXe siècle, un romancier comme Henri de Montfred ou un poète comme Arthur Rimbaud, l'auteur du bateau ivre, celui qui disait qu'il s'est baigné dans le poème de la mer, avait navigué dans cette zone-là et s'était livré à des trafics maritimes. De même, en 2013, un grand succès avec le film avec Tom Hanks, Capitaine Phillips, montrant bien tous les enjeux qui pesaient sur les capitaines de navires de commerce. Mais là, en 2024, on revoit un peu l'enjeu autour des routes maritimes. C'est ça l'enjeu géopolitique. Parce que nous sommes sur une route maritime essentielle, mondiale, massifiée, par laquelle passent des navires marqués par le gigantisme naval, des grands porte-conteneurs, des pétroliers, qui vont passer par le canal de Suez. Mais dès lors qu'ils sont menacés par des attaques terrestres, à distance, avec des drones, avec des missiles, eh bien, ça entraîne des choix de changement de route maritime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revoit toute la logistique. Et pour ces navires qui font jusqu'à 24 000 boîtes, pour ceux qui font le tour du Cap de Bonne-Espérance, vous imaginez tous les enjeux qui se posent pour les logisticiens, pour les chargeurs, pour choisir les ports d'escale, pour réajuster ces flux maritimes. Mais déroutement de navire, ça veut dire aussi surcoût. Surcoût de soute, mais aussi inquiétude en matière d'assurance maritime. Et la crise actuellement au large du Yémen a entraîné une hausse importante du marché des assurances maritimes. Or, depuis le départ, ce sont quelques outils, depuis la terre, qui viennent menacer une route maritime majeure. Est-ce que donc c'est depuis la terre qu'on peut ébranler la mer? Où se situe finalement la puissance? Qu'est-ce que la maîtrise stratégique? Et ça fait donc réfléchir à ces notions de puissance maritime et de puissance navale.
Alors justement, c'est un point extrêmement intéressant, Nicolas Péot. Selon vous, il est clair qu'il faut distinguer ces deux notions de puissance navale et de puissance maritime, n'est-ce pas?
J'en suis convaincu. Je pense qu'il faut commencer d'abord par la puissance navale. La puissance navale, c'est une notion avant tout militaire et assimilée. C'est-à-dire que c'est le fait pour un pays de conserver toute sa liberté d'action. Ça veut dire qu'une puissance navale, c'est celle d'un pays qui dispose des moyens lui permettant de maîtriser ses intérêts stratégiques en mer et à terre. En d'autres termes, c'est le sea power, c'est-à-dire la capacité, l'assurance d'avoir une suprématie en mer. Et cette idée-là essentielle, eh bien, on a un auteur peu connu, même s'il a été revisité par des auteurs français, c'est un amiral américain, Mahan, de la fin du 19e siècle, qui a, dans une thèse remarquable, fait une analyse historique sur 3 siècles, réfléchi à l'influence de la puissance navale sur le sens de l'histoire. Et cet amiral Mahan disait, comment se fait-il que des grandes puissances maritimes ou navales ont pu exister? Et il a réfléchi à des critères. Et parmi ces critères, il a noté le fait d'avoir bien sûr une puissance militaire navale, d'avoir des bases navales dans le monde où on faisait escale, où on pouvait réparer les navires, et derrière ça, des enjeux qui, eux, relèvent de la puissance maritime. Et c'est ainsi qu'on arrive à la distinction avec cette puissance maritime-là. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, mais concrètement, c'est la théorie avec Mahan. Peut-être qu'il y aurait des exemples dans l'histoire.
Alors justement, vous avez des exemples de puissance navale, Nicolas Péot, dans l'histoire?
Alors, je pense surtout à l'Angleterre. Et je vais un peu sourire, mais André Siegfried, qui était un auteur majeur de l'École libre des sciences politiques, pour la petite histoire, a été un auteur de sociologie, de géographie, d'histoire, et un malheureux candidat aux élections politiques. Il n'en a jamais gagné une seule, alors qu'il a tenté d'être maire, conseiller municipal, député. Et André Siegfried, dans un cours qu'il faisait à l'École libre de sciences politiques, commençait ainsi sur l'Angleterre. L'Angleterre est une île, première partie, entourée d'eau, deuxième partie. On dirait là un plan à la Sciences Po. Et en fait, l'idée qu'il avait, c'est de dire, ben, c'est d'abord une île marquée par son insularité, sa singularité, son risque de repli, pensez au Brexit, et entourée d'eau pour expliquer tout l'impérialisme britannique qui va construire peu à peu son empire colonial, puis son Commonwealth, depuis les îles britanniques. Et donc cet exemple-là me paraît stimulant. Mais d'ailleurs, un exemple, il faut se dire, mais finalement, c'est quoi les attributs d'une puissance navale? Par exemple, aujourd'hui, c'est la capacité d'avoir une flotte sous-marine. Bien sûr, on connaît souvent, on pense à Octobre Rouge, tiré du roman de Tom Clancy, hein, le film avec Sean Connery, sorti en 1990. On pense aussi à un autre film de James Cameron, on connaît surtout Titanic, mais Cameron est passionné par les fonds marins, et il a fait un film sorti en 1989 qui s'appelle The Abyss, où c'est l'histoire d'un sous-marin en difficulté. On a peur que les Soviétiques puissent y accéder, et donc il y a une course à la montre dans les fonds marins. Donc il y a les enjeux de sous-marins, les enjeux bien sûr de dissuasion nucléaire à partir de ces sous-marins. Il y a aussi un second enjeu intéressant, c'est le rôle d'un porte-avions. En quoi un porte-avions est une arme géostratégique, une arme de diplomatie? Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de débats sur le besoin éventuel d'avoir un second porte-avions. Et puis, troisième critère peut-être de puissance navale, c'est une capacité de protéger ses abords maritimes. Dans une société qui est quand même marquée par les enjeux de migration, par voie de mer, la Manche, la Méditerranée, on réfléchit bien sûr à la question de se protéger. Et là, je pense en littérature à Julien Gracq. Julien Gracq dans Le Rivage des Sirtes, qui décrit ses frontières d'alarme avec ses patrouilles de navires dans le labyrinthe géographique qu'il dessine. Julien Gracq était un géographe. Et d'ailleurs, vous verrez bien que souvent, quand on parle de la mer, on parle aussi de géographie. Et donc, vous voyez, cette puissance navale va s'exprimer de différentes façons dans cette capacité de projection, de débarquement, de menace. Aussi bien un enjeu donc en mer qu'un enjeu à terre. Mais derrière ça, il y a aussi peut-être un autre facteur qui est lié peut-être aux marins.
Alors justement, puisque l'on parle de l'homme, de l'humain dans la puissance navale, puisqu'on parle des marins, revenons à l'exemple français, à la situation française. Je parle sous votre contrôle, Nicolas Péot, mais la France, je crois, a été confrontée à des problèmes de recrutement et c'est historique.
Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, vous noterez qu'actuellement, on parlait à l'instant du Royaume-Uni, mais la presse a fait l'écho depuis quelques mois des vraies difficultés rencontrées par les Anglais pour avoir des recrues à bord de leurs bâtiments militaires, de la Royal Navy. Eh bien, on voit qu'on a beau être une grande puissance, on se pose toujours la question à la fin de l'élément humain. Et la France, en fait, lorsqu'il y a eu ce début d'expansion lié aux grandes découvertes, puis aux colonies, il a fallu armer les vaisseaux du roi. Donc, il fallait trouver des hommes. Donc d'abord, en France, comme dans beaucoup de pays, on pratiquait un système qui s'appelait la presse. On faisait des rafles. Vous étiez paysan, vous veniez à Brest avec votre vache pour la vendre au marché et vous partiez pour 6 mois en mer. Je schématise un petit peu. Mais ces systèmes-là, bien sûr, étaient très liberticides, peu efficaces et c'était des mutineries. Donc, Colbert a, et sous cette logique rationnelle qui le caractérise, a réfléchi à un système très organisé qui est d'abord devenu le système des classes, puis le système de l'inscription maritime et qui est aujourd'hui, l'héritage serait dans l'administration des affaires maritimes. L'enjeu, c'était de dire, je suis capable chaque année de lever des gens de mer qui vont servir sur les vaisseaux du roi et en échange de ce service rendu au roi, eh bien, ils auront des avantages civils. Des pensions, c'est l'ancêtre du régime de sécurité sociale, ou bien des avantages liés à l'occupation du domaine public. Mais bon, j'ai bien conscience qu'on s'éloigne peut-être de notre sujet initial qui était la puissance maritime.
Alors c'est vrai, avant d'y revenir, j'aimerais juste souligner deux points. Sur les rafles, elles ont continué à être pratiquées en Angleterre au XIXe siècle. C'est très bien écrit dans le dernier livre d'un de mes romanciers adorés, Ken Follett, dans son ouvrage « Les armes de la lumière ». Et toujours dans la même veine, alors c'est pas des rafles, mais vous parliez des problèmes de recrutement en Angleterre, de la Royal Navy. Ils ont quand même passé, il y a peu, une annonce sur LinkedIn pour recruter un amiral, si je ne me trompe. Mais vous avez raison, Nicolas Péot, on s'éloigne du sujet initial. Vous nous avez clairement expliqué ce qu'est la puissance navale. Mais vous nous disiez aussi qu'il fallait la distinguer de la puissance maritime. Du coup, très logiquement, je vous le demande, quid de la puissance maritime ?
Alors là, c'est une vaste question. Parce que la puissance maritime, quelque part, on n'est pas loin d'un mythe. D'ailleurs, on a là-dessus des tas de critères, des tas d'auteurs qui s'expriment, et finalement, on n'a pas une définition stabilisée qui l'emporte. En réalité, comme un bon juriste, on va réfléchir avec un faisceau de critères. Et donc, premier critère, ça va être l'expression autour des espaces maritimes qui pourrait traduire l'existence d'une puissance maritime. Et encore, en quoi la géographie va déterminer un destin d'une puissance maritime ? Regardez le peuple de la mer tel que les Égyptiens appelaient les Phéniciens. Grand peuple maritime. Et pourtant, quand vous regardez là où ils étaient, zone aride, déserte, il n'y avait pas d'intérêt, ils n'avaient pas d'atout particulier. D'où l'idée de dire, mais justement, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans un endroit favorable qu'ils ont été poussés à aller ailleurs dans une idée d'expansion. Donc vous voyez le critère géographique, on peut en discuter. Mais il y a ce premier critère qui est celui finalement de quel est votre espace maritime sur lequel vous allez exercer une juridiction ou une souveraineté. Donc, ça va s'exprimer par rapport à la forme de votre État, c'est-à-dire, en fait, est-ce que vous avez, par exemple, un État archipélagique avec de nombreuses îles ? Est-ce que vous avez des territoires ultramarins qui vont justifier des liens maritimes récurrents, naturellement économiques, de transfert de population, et donc qui vont permettre de justifier une flotte à l'appui de cet espace maritime particulier ? Et qui vont nourrir un commerce maritime sous forme souvent d'une rente de situation entre la mère patrie et ces territoires qui à l'époque étaient des colonies. Donc d'abord, il y a ces espaces maritimes. Ensuite, il y a la capacité économique et le commerce. La capacité économique, c'est-à-dire, est-ce que vraiment vous êtes un pays qui exporte, qui a donc besoin de navires civils et donc historiquement, a eu besoin de navires militaires pour protéger ses routes maritimes et ses navires civils. Et ça, ça a pu notamment justifier l'émergence de grandes puissances maritimes temporaires. Je pense à l'Espagne, je pense au Danemark, qui ont été, à un moment donné, dans leur histoire, des pays qui avaient un lien avec une conquête. Pensez à l'Espagne, le siècle d'or avec l'Amérique du Sud, hein. Donc, ces moments-là ont justifié le fait que ce soit une puissance maritime. Il y avait un lien entre l'économie et les enjeux navals. Mais une puissance maritime, ce n'est pas que ça. c'est aussi une capacité à bâtir une flotte. Et d'ailleurs, il y a tout un symbole. Je pense à Cromwell, lorsqu'il prend le pouvoir en 1651, pendant les fameuses guerres civiles. C'est la même année d'ailleurs où Hobbes publie le Léviathan. Et donc, Cromwell va prendre un acte important qui s'appelle les actes de navigation, qui seront repris par de nombreux pays, comme la France d'ailleurs, jusqu'au XIXe siècle. L'acte de navigation est le suivant. Votre navire peut battre le pavillon de votre pays qu'à condition qu'il était construit sur ce pays. Donc, on avait mis en place un système économique qui était sous un régime captif. Et c'était un monopole. Alors pourquoi ces enjeux autour du pavillon? Parce que qui disait à l'époque pavillon disait d'être protégé face à des pirates, face à des corsaires ou à des états peu regardants lorsque vous faisiez escale. Donc les actes de navigation ont contribué à créer une économie un peu sous protection, sous contrôle, qui va disparaître finalement au cours du XIXe siècle avec l'essor de la liberté de circulation. Mais vous voyez, tout ça fait un peu réfléchir à ces différents critères. Et je crois que finalement, il y en a un qui est quand même intéressant, c'est celui autour des frontières maritimes.
Alors, Nicolas Péau, je pense qu'à ce moment-là du podcast, vous allez nous parler de Montego Bay.
Eh oui, Montego Bay. Alors, Montego Bay, d'abord, c'est où? C'est en Jamaïque. Mais surtout, c'est un symbole très important. On est en 1982 et est signée une convention internationale sur le droit de la mer. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est le moment où de nombreux pays qui ont pu accéder à l'indépendance fin des années 60, années 70, se sont vus reconnaître un statut juridique grâce au droit de la mer. Autrement dit, ils ont dit à des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, vous êtes des grandes puissances maritimes, vous avez des flottes, des navires, des pavillons, du commerce. Mais nous sommes des États côtiers. Et donc, on a un droit de regard sur ce qui se passe au large de nos côtes. C'est l'émergence de l'emprise de l'État côtier. Et d'ailleurs, Montego Bay, il y a un symbole, il y a un chapitre spécifique aux États archipélagiques, notion complètement nouvelle sur un plan juridique. Et des pays comme l'Indonésie, les Philippines, et même les Seychelles ou les Maldives, ont pris une place plus importante parce que forcément, dès lors qu'on reconnaît un État archipélagique, on étend leurs frontières maritimes et donc l'exercice de leur juridiction ou de leur souveraineté. Autrement dit, Montego Bay est une date vraiment importante dans les rapports de force entre d'un côté l'État du pavillon, de l'autre l'État côtier. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais la France là-dedans, c'est quoi? C'est un État pavillon? C'est un État côtier? C'est un État du port?
Alors justement, vous l'avez laissé entendre à plusieurs reprises et on va presque dire que dans l'idée, c'est une évidence. Est-ce que la France peut être qualifiée ainsi de puissance maritime, Nicolas Péau?
Alors, on l'entend beaucoup, très clairement. Il y a un discours très fort en France. Je pense notamment au président Emmanuel Macron en 2019, lors d'Assises de la mer, où il a évoqué tous les enjeux de ce qu'on appelle l'économie bleue. L'économie bleue, en fait, c'est l'idée qu'on peut tirer des avantages économiques de tous les espaces maritimes qui relèvent de la souveraineté de la France. Et donc, il y a effectivement un discours qui se résume ainsi. La France est la deuxième puissance maritime mondiale. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que c'est une confusion avec l'idée plutôt, là avérée, que la France a le deuxième domaine maritime mondial. Et ce n'est pas la même chose. Et c'est là qu'on va retrouver le lien avec la puissance navale. À quoi ça sert d'avoir d'immenses zones économiques exclusives si vous n'avez pas les moyens d'en contrôler l'effectivité des normes juridiques que vous devez mettre en œuvre pour protéger ces espaces vis-à-vis de tiers? Prenez l'exemple des terres australes antarctiques françaises, où au début des années 90, on a découvert en fait une mine d'or, au sens halieutique, avec la légine, poisson remarquable qui a attiré beaucoup de pirates maritimes qui venaient pêcher avec donc des pavillons qui n'étaient pas assez autorisés à venir sur zone. Et en fait, la France n'avait pas les moyens de contrôler. Donc, peu à peu, mise en place une surveillance avec des radars, coopération avec l'Australie. Donc, on pense, on considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus les mêmes enjeux d'atteinte à la ressource halieutique dans cette zone-là. Mais il y a d'autres endroits où, en revanche, on se pose des questions. Je pense notamment à l'atoll de Clipperton dans le Pacifique. Hein. Il y a cette confusion entre le domaine maritime et puissance maritime. Ce qui renvoie quand même à une réflexion qu'on doit avoir sur l'importance de l'effectivité de la norme juridique. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des espaces, mais il faut pouvoir les protéger. Figurez-vous que, par exemple, dans l'océan Indien, nous avons des îles revendiquées par d'autres pays, comme Maurice, comme Madagascar. C'est notamment les îles Éparses. Et donc, pour manifester cette effectivité, la France, tous les ans, y fait séjourner des militaires, des scientifiques qui sont débarqués par voie aérienne ou par voie maritime, qui vont entretenir l'atoll ou l'île et marquer leur présence pour éviter qu'un État tiers dise « ben, je considère que ce pays-là n'a pas une utilisation effective et donc je suis en droit de le revendiquer ». Et bien sûr, on peut penser à tous les enjeux géopolitiques en mer de Chine, avec cette rivalité croissante entre le Vietnam, les Philippines, le Japon et bien sûr la Chine, dont on a oublié qu'elle fut une grande puissance navale au XVe siècle. Donc ça pose à nous, voyez, ces liens à chaque fois, puissance maritime, puissance navale.
Justement, Nicolas Péot, on a cherché au début de ce podcast à expliquer la différence entre puissance navale et puissance maritime. Et en fin de compte, on revient au lien intime qui existe entre ces deux notions, parce que sans puissance navale, semble-t-il, point de puissance maritime. C'est cela ?
C'est cela. En fait, on revient à l'amiral Mahan. Il faut une puissance navale si on veut être une puissance maritime. Parce que à un moment donné, pour que la souveraineté reste en mer, il faut l'expression d'une puissance publique. Il faut l'expression d'une capacité d'agir, d'avoir une emprise. Et ces vocabulaires juridiques qu'on trouve en droit, sachant qu'il faut bien sûr distinguer ce qu'on appelle le droit maritime du droit de la mer. Le droit maritime, hein, je fais cette parenthèse, mais le droit maritime, ce qui renvoie aux relations privées, droit du travail, droit de la sécurité sociale et surtout droit des contrats pour les navires en tant qu'objet d'objet de cession ou en cas de collision, d'abordage. Du droit de la mer qui, lui, renvoie en fait au droit des espaces marins et qui est plutôt un droit qui est rattaché au droit public. Je ferme cette parenthèse là pour mémoire. Mais donc, pour revenir à ça, impérativement, il n'y aura pas de puissance maritime s'il n'y a pas de puissance navale. Ce qui d'ailleurs pousse certains États régulièrement à imaginer des programmes de réarmement pour pouvoir affirmer leur puissance. Mais une puissance navale, ça suppose des moyens. Et donc là en revanche, quelle est derrière ça la vraie puissance économique et peut-être maritime de l'État en question ? Tous les pays ne peuvent pas prétendre devenir une puissance navale. Aujourd'hui, vous avez bien sûr les États-Unis, superpuissance, qui ont une puissance navale. Vous avez la Chine. Mais à l'inverse, je constate qu'il y a des pays qui sont des puissances maritimes et qui ne sont absolument pas des puissances navales. La Grèce, grande nation maritime au niveau du shipping, du transport maritime. Le Japon, grande puissance maritime parce que derrière ça, il y a le commerce. Donc vous voyez, on retrouve les critères. Critères de la flotte. Critères de la puissance économique. Ça, ce sont des puissances maritimes. Mais ces deux exemples ne sont pas des puissances navales.
Nicolas Péot, merci. Nous arrivons au terme de ce podcast. Vous voulez peut-être ajouter un mot en conclusion ?
On a parlé de puissance navale, puissance maritime. N'oublions pas que la mer elle-même est une puissance. Je pense à Paul Valéry, l'auteur de Cimetière marin, qui disait « Aux puissances salées courront à l'onde en rejaillir vivant ». La mer, est un lieu de danger. Pensez à l'échec, finalement, de la grande armada espagnole lorsqu'elle a voulu conquérir l'Angleterre. Certes, ils ont été battus par les Anglais en partie, mais surtout, ils ont succombé à une immense tempête. La mer, en fait, reste la grande puissance souveraine là-dessus. Et je pense à un autre poète qui était un diplomate, Saint John Perse, qui disait « Et la mer à la ronde roule son bruit de crâne sur les grèves ». Donc, restons un petit peu humbles devant le monde maritime. Derrière ce constat, il y a un autre sujet qui m'inquiète plus. C'est que l'espace maritime est un espace extrêmement convoité. Et tous les défis qui se posent dans un système d'État compétitif, en concurrence, notamment en termes de domaine maritime, c'est comment concilier une exploitation avec les enjeux liés au développement durable. Les océans sont en train de connaître d'importantes agressions liées au réchauffement climatique, liées à des exploitations économiques. Et donc, ça pose la question de la capacité d'une gouvernance mondiale à pouvoir traiter ensemble une gestion partagée entre différents États. Or, depuis le début de ce podcast, on voit bien que la mer est toujours un enjeu de souveraineté politique.
Un lieu de compétition alors que l'on devrait espérer une forme de concertation et d'intelligence commune. Nicolas Péot, je propose qu'on en termine sur ces mots. Je vous remercie et on espère vous retrouver prochainement dans les podcasts de l'ISP.
Plaisir.
Au revoir à tous, merci de votre écoute.